troisième épisode de notre série « En route pour l'inconnu, que demain ne ressemble pas à hier » avec le politologue bulgare Ivan Krastev. Il a fait une entrée remarquée dans notre vie des idées il y a 3 ans avec le destin de l'Europe et sa contribution à un ouvrage collectif qu'il est important d'avoir dans sa petite bibliothèque des idées, « L'âge de la régression ». Aujourd'hui, le président du Centre pour les stratégies libérales de Sofia publie Est-ce déjà demain, le monde paradoxal de l'après-Covid-19 aux éditions Premier Parallèle, une réflexion ouverte pendant le confinement qui ne vise pas tant, écrit-il, à prédire la forme qu'adoptera le monde de l'après-Covid, qui n'est pas non plus un manifeste défendant un quelconque modèle à suivre. Sa seule ambition, écrit Ivan Krastev, est d'analyser ce fléau qu'est le Covid-19 en l'envisageant comme un phénomène inédit, fondamentalement différent des 3 crises qui l'ont précédé. Bonjour à vous, Ivan Krastev.
Good morning.
Vous êtes avec nous en direct de Vienne. Et bonjour à votre voix française, Robert Wolfenstein. Bonjour.
Bonjour.
Vous soulignez, Ivan Krastev, dans cet essai, le caractère inédit de cette crise épidémique. Suffisamment inédit, d'après vous, pour affirmer qu'il y aura un avant et surtout un après, qu'un retour à la normale n'est plus possible ?
Former days, former ways.
I do believe, of course, we are living in a time.
En effet, parce que nous vivons à une époque où nous constatons que beaucoup de choses, effectivement, sont inédites.
Mais
il faut se rappeler quand même ce qui s'est passé au cours des derniers mois. Il faut bien comprendre que c'est l'expérience sociale la plus extraordinaire à laquelle il nous a été donné d'assister. En l'espace de quelques semaines, des milliards de personnes se sont trouvées confinées.
Most planes were landed. Factories have been closed.
Des usines ont été fermées, des écoles, tout. La première question qui m'était venue à l'esprit était de savoir, est-ce que nous sommes associés activement à cette situation? Si l'on peut en juger par l'histoire passée, nous savons comment se rappeler les révolutions, mais on ne sait pas comment se rappeler les pandémies. Là, il faut se rappeler que, par exemple, il y a 3 ou 4 fois plus de gens qui sont morts de la grippe espagnole qu'en 1918-1920. Que pendant les deux conflits mondiaux. Alors, en même temps, il y a eu 80 000 bouquins écrits sur les deux conflits mondiaux et très peu sur la grippe espagnole. 400 livres sur la grippe espagnole.
And only 400 have been written about the Spanish flu.
400 livres en tout, donc par rapport aux 80 000 sur les deux conflits mondiaux. Alors qu'il y avait beaucoup moins de morts pendant ces guerres. Et donc ça, c'est un des premiers enseignements de la pandémie. En quelque sorte, rien ne s'est passé et tout a changé.
Oui, ce qui donne à peu près la mesure de l'événement à vos yeux, Ivan Krastev. La fermeture des frontières décrétée par la plupart des pays, ce chacun chez soi, est-ce que l'épidémie, à vos yeux, a agi comme un coup d'arrêt à la mondialisation, à un retour des nations ? Et est-ce qu'il vous semble transitoire ou durable ?
J'ai réfléchi à cette question. Au tout début de la pandémie, on ne savait pas trop ce qui allait se passer. On ne savait pas quand elle se terminerait, de quelle façon. Mais ce qui m'a choqué par rapport à tout ça, c'est quand même cette situation très paradoxale. D'un côté, il y a évidemment la crise de la mondialisation qui est incontestable. Tout le monde paraissait très vulnérable parce que quelque chose qui s'est passé à l'autre bout du monde nous affecte ici. Et cela, évidemment, cela a complètement changé notre façon de vivre du jour au lendemain. Donc, de ce point de vue, il y avait effectivement cette tentation de retourner à l'État-nation. Une espèce de façon de se protéger contre une interdépendance qui serait allée trop loin. Mais en même temps, deux choses ont été révélées par cette pandémie. D'abord, on se heurte aux limites du nationalisme économique. Nous avons compris que, d'abord, on ne peut pas rester confiné indéfiniment chez soi. Les nations, les États-nations ne peuvent pas non plus vivre confinés indéfiniment. Séparées les unes des autres. Et puis, deuxièmement, nous avons constaté que lorsqu'on se retrouve chez soi, confiné donc, c'est là que l'on découvre qu'on vit quand même un peu prisonnier, mais dépendant des autres. Et de manière très, justement, mondialisée, puisque tout le monde parlait du Covid-19. Et donc, notre solitude nous a amené à faire des comparaisons constantes avec tout ce qu'il y avait autour de nous. Combien de personnes ont été infectées dans tel ou tel pays, combien de victimes, etc.
Why this is happening?
Et on s'interrogeait donc pourquoi c'était différent ailleurs. On n'arrêtait pas de se comparer aux autres.
Donc,
de ce point de vue, cette crise a provoqué à la fois une démondialisation, mais en même temps, une nouvelle mondialisation, puisqu'on était encore plus ouvert sur les autres de ce fait.
L'épidémie, vous l'évoquez, Ivan Krastev, ce n'est pas la mondialisation heureuse. Il y a eu cette tentation du repli qui n'a pas échappé aux populistes, qui n'a pas échappé non plus aux partis d'extrême droite. On va écouter la voix de Marine Le Pen qui, au tout début de l'épidémie, avant même que la France se claquemure, se renferme dans ses frontières et les Français dans leurs appartements, elle en appelait à la fermeture des frontières qui n'avaient pas encore été décidées. On l'écoute.
J'ai été très claire depuis un mois, puisque je me suis intéressée dès le départ à cette épidémie. J'ai même, je crois, été la première à demander il y a près d'un mois à ce que l'on suspende les vols en provenance de Chine. Donc vous voyez que j'ai une belle cohérence. Je pense que ça n'est pas peut-être suffisant, la maîtrise des frontières, mais que c'est évidemment un des éléments pour limiter la propagation. Et encore une fois, je vous en donne une preuve, c'est que, je le répète, 10 pays dans les 48 dernières heures, 10 pays dans le monde ont développé au moins un cas qui est lié au foyer infectieux italien. Voilà, donc je pense, oui, que cette idéologie que je ressens, hein, à droite comme à gauche d'ailleurs, qui consiste à dire en aucun cas, jamais, jamais il ne faut pouvoir envisager la moindre maîtrise d'une frontière, m'apparaît relever plus de l'idéologie que du pragmatisme qui est nécessaire pour faire face à ce type de crise.
Voilà, Marine Le Pen en appelant à la fermeture des frontières le 27 février de cette année, estimant que ce ne sera pas une réponse suffisante, mais qu'elle est nécessaire. Est-ce que l'épidémie lui a donné raison? Est-ce qu'il s'agit là d'une question idéologique pour vous, Ivan Krastev?
Marine Le Pen's position.
No, listen, one of the interesting aspects of the crisis.
L'un des aspects intéressants de cette crise, justement, c'est que vous aviez deux tendances presque opposées qui se sont manifestées simultanément.
Suddenly, many people, and probably Marine Le Pen is one of them.
Du jour au lendemain, nombreux sont ceux, dont Marine Le Pen, qui ont été, si vous voulez, motivés par des considérations idéologiques.
Had the feeling that all the things that they had been advocating for.
Tout ce qu'ils préconisaient depuis des années
could be possible because
pouvait the idea that se concrétiser du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'ils rêvaient d'un monde où les frontières seraient fermées.
Et
du jour au lendemain, effectivement, ces frontières se sont fermées. Et de la même façon, les rêves les plus fous des écologistes de fermer les aéroports, par exemple, ce rêve aussi s'est réalisé. Donc, de ce point de vue, la crise a radicalisé les positions des gens qui sont déjà très extrêmes dans leur position. Mais en même temps, pour beaucoup de gens qui analysaient, observaient le monde pré-Covid-19 comme étant un monde normal, ces gens-là ont commencé à se dire que finalement, il y avait une nouvelle forme de normalité, ou en tout cas, ils se disaient, est-ce qu'on va pouvoir retourner à l'ancienne normalité, c'est-à-dire avant la pandémie. Et là, au premier stade de la crise, les partis populistes et les dirigeants populistes n'ont pas été finalement les grands gagnants sur le plan politique. Pourquoi ? Parce que le soutien aux partis populistes ne s'appuie pas tellement sur la peur, mais sur l'angoisse. Ça n'est pas la même chose. Effectivement, quand vous avez une peur, disons, diffuse ou une peur un peu de tout en même temps, c'est ça, cette espèce d'angoisse. C'est le genre de chose qui peut alimenter le populisme. Alors que le Covid-19, lui, amène une peur bien concrète, celle de tomber malade, de mourir. Quelque chose de très spécifique. Et donc, dans les deux premiers mois de la crise, dans tous les sondages d'opinion dans le monde entier, ce qu'on a constaté, c'est que finalement, c'était les gouvernements, les pouvoirs en place, qui finalement avaient l'aval de la population plutôt que les populistes. Qui ont donc bénéficié de la crise. Alors évidemment, il y a eu une crise sanitaire qui est devenue une crise économique. Et là, ça a un peu changé la donne. Et c'est ce que l'on a vu d'ailleurs avec la première crise de l'énergie.
Nous sommes tous des Européens, ça c'est ce que chante Arnaud, le chanteur belge. Mais vous êtes, vous, un Européen de l'Est. Nous avons vécu cette crise. Nous avons... Yvan Krastev, vous ne nous entendez pas. Je vais reprendre la question. Nous avons-nous vécu cette crise ici de l'Ouest ? Vous êtes un homme de l'Est. Est-ce que le traitement de cette crise, le vécu de cette crise, vous a semblé très différent d'un côté à l'autre de l'Europe ?
Pas vraiment, et d'ailleurs justement ça c'est un des aspects intéressants de cette crise. Il n'y a pas vraiment un traitement différent selon qu'on soit en Europe de l'Est ou de l'Ouest. En fait, à l'échelle mondiale, un peu partout dans le monde, finalement les gouvernements ont tous fait à peu près la même chose. Et pour moi, la logique a été la suivante. Le Covid-19 a infecté le monde en lui apportant une incertitude. Il n'y avait pas d'information. On ne savait rien sur ce virus, on ne savait pas comment ce virus opérait. Et lorsqu'on est au pouvoir, lorsqu'on est au gouvernement, la chose à faire, c'est de faire ce que font les autres. Parce qu'au moins, on ne peut pas vous accuser de ne pas avoir suivi l'exemple. Donc là, pour ce qui est de la réponse des politiques sanitaires, on constate une grande ressemblance entre ce qui s'est passé entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Mais alors, pour des raisons qui ne sont pas entièrement clairs, les pays d'Europe de l'Est, finalement, se sont retrouvés moins affectés par les crises, en tout cas au début, l'une des raisons en étant que le virus est arrivé un peu après les autres, après ce qui s'est passé dans certains pays, notamment l'Italie et l'Espagne.
Yvan Krastev, vous êtes un avocat de la cause européenne, du projet politique d'intégration contre le modèle illibéral ou antilibéral. Est-ce que vous avez été surpris du manque de réactivité de l'Union européenne et surtout de son manque de solidarité au début de l'épidémie ?
Étonné, je n'étais pas trop. Et je vais vous dire, lorsqu'il s'agit de politique sanitaire, enfin, il n'y a pas vraiment de politique européenne sur le plan sanitaire. Hein. Cette politique appartient aux États-nations. Et dans ces moments de crise, de grand danger, l'instinct des États-nations, c'est justement de se replier sur elles-mêmes. Donc, d'un côté, je pense que l'Union européenne est le seul projet qui puisse apporter une pertinence à la présence européenne sur la scène mondiale. Pour autant, je ne pense pas que les États-nations aient perdu leur importance. Et lorsque l'on a, disons, essayé de revenir aux États-nations pendant cette période d'incertitude, je veux dire que cette situation et cette réaction ou non-réaction de l'Union européenne ne m'a pas tellement étonné. Par contre, ce qui m'a étonné, c'est la façon dont les pays ont réagi plutôt sur le plan symbolique que politique. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de se replier sur soi-même, c'était la façon dont on fermait la porte aux pays qui avaient été les plus touchés. Mais enfin, ces réactions entre pays, c'est un peu la même chose qu'on voit sur le plan humain, la distanciation sociale, la même chose qui se passe sur le plan entre les personnes.
Bonjour l'Union, en tout cas. Première à voler au secours de l'Italie, c'était la Chine, comme le rappelle Antoine Bondaz de la Fondation pour la Recherche Stratégique. On l'écoute.
Là où la Chine a marqué des points, c'est dans la réactivité. Elle a très rapidement apporté son aide, notamment à l'Italie, à un moment où la France et l'Allemagne étaient, et plus largement l'Union européenne, étaient absentes. Et donc, dans les premiers jours de l'épidémie, notamment en Europe, elle a très clairement marqué des points. Vous en parliez encore une fois hier. Les perceptions vis-à-vis de la Chine se sont améliorées dans ce pays. En tout cas, c'est les sondages dont on dispose pour l'instant.
Voilà, Antoine Bondaz qui était l'invité de Culture Monde en mai.
Le grand échec, ça a été l'absence de coordination des politiques européennes. Il faut quand même souligner que les activités chinoises, en grande partie, cette diplomatie des masques de protection, c'était une façon quand même de répondre aux craintes de nombreux pays qui se disaient que la Chine voulait s'accaparer le reste du monde. Et là, je crois que la Chine a essayé d'exploiter politiquement, de récupérer un petit peu politiquement cette crise. D'un côté, ce qui s'est passé, il y a d'abord un sentiment positif en venant à l'aide de certains pays, mais en même temps, il y avait un ressentiment anti-chinois dans un certain nombre d'États membres.
C'est la question que je voulais vous poser, Ivan Krastev. Même si le système politique chinois, et vous le rappelez, n'attire pas les Européens, son autoritarisme, la centralisation du pouvoir, la surveillance via le big data, est-ce que la Chine a été quand même plus exemplaire dans sa gestion de la crise? Est-ce qu'elle a des leçons de cohésion à donner ou de solidarité à donner à l'Europe?
Elle peut en effet donner certaines leçons à l'Europe. L'un des aspects intéressants de cette crise, c'est que d'un côté, on se posait toujours la question de savoir si les régimes autoritaires s'en sortaient mieux que les régimes démocratiques. Mais ce qu'on a constaté, c'est que la nature du régime politique, finalement, n'était pas le facteur décisif. Pour savoir si un pays s'en sortirait mieux ou moins bien. En fait, il y avait trois autres facteurs qui étaient bien plus pertinents. D'abord, le niveau de confiance dans l'État, confiance sociale, disons. Et là, il faut savoir qu'en Chine, ce niveau de confiance de la part des citoyens est assez élevé. Deuxièmement, par rapport aux crises antérieures, en Asie, il n'y avait pas que la Chine, la Corée du Sud, Taïwan s'en sont fort bien sortis. Pourquoi ? Parce que ces pays avaient l'expérience du SRAS qui remontait à quelques années. Et quant à l'efficacité en général de l'administration centrale, finalement, c'est ces éléments concrets qui ont fait toute la différence. Alors, d'un côté, vous avez des démocraties qui s'en sont bien sorties, et même très bien, le Danemark, l'Allemagne, et puis vous avez des pays autoritaires qui également ont tiré leur épingle du jeu, notamment la Chine.
La Covid-19, Ivan Krastev, a-t-elle été un fléau ou est-elle aussi un virus qui attaque nos démocraties ou la démocratie?
Disons qu'il y a eu un vrai défi lancé à la démocratie. Ce qu'il faut se rappeler par rapport au Covid-19, ou à la Covid-19 plutôt, en tout cas, si on se base sur ce que disent les experts, c'est un virus qui est particulièrement dangereux pour les malades atteints de pathologies antérieures. Et nos démocraties sont un peu à l'image de ces patients qui souffraient de pathologies préexistantes.
Et
de ce point de vue, on peut dire que le virus a révélé certaines de ces dysfonctionnements, de ces pathologies dans ces démocraties. Ce que l'on voit aux États-Unis en est un bel exemple. Et puis en même temps, je n'ai jamais vraiment cautionné l'idée que la COVID-19 soit un allié naturel des régimes autoritaires. Pourquoi ? Parce que les dictateurs, voyez-vous, la plus grande liberté dont jouissent les dictateurs, c'est la liberté de décider de la crise qu'ils vont appliquer et à laquelle ils vont réagir, en tout cas aux yeux du peuple.
Parlons maintenant un peu de la presse, si vous le voulez bien. Ivan Krastev, vous êtes notre invité, vous, le politologue bulgare, auteur ce mois-ci, aujourd'hui même, le livre paraît en France, d'un ouvrage mûri, écrit pendant le confinement. Est-ce déjà demain, le monde paradoxal de l'après-Covid-19 qui paraît aux éditions Premier Parallèle. France Culture, il est 13h18.
France Culture, la grande table. Olivia Jesbert.
Et vous écrivez, Ivan Krastev, nous éprouverons une vive nostalgie pour le temps d'avant, ce temps où il suffisait de monter dans un avion pour se rendre à peu près n'importe où dans le monde, ce temps où les restaurants étaient pleins, ce temps où la mort semblait si peu naturelle que lorsqu'elle emportait une personne âgée, nous suspections une erreur médicale. Une fois le virus vaincu, dites-vous, le monde sera emporté par une épidémie de nostalgie. Quelles que soient les mesures qui vont être prises, quels que soient les événements qui suivront, comment dépasser cette épidémie de nostalgie? Comment s'en guérir, Ivan Krastev?
Oui, cette épidémie de nostalgie, c'est finalement celle qui suit finalement la fin de chaque catastrophe, qu'elle soit naturelle ou artificielle, parce que l'on constate du jour au lendemain, on se rend compte ce qu'était le monde d'hier, le charme du monde d'hier. Mais ce que nous avons découvert avec ce virus, avec la Covid-19, c'est que paradoxalement, le monde d'hier n'est pas un monde auquel nous pouvons retourner, et même aujourd'hui, lorsque nous parlons de fin de crise, et nombreux sont ceux qui disent que voilà, tout ce qu'il faut, c'est trouver un vaccin et ce virus va disparaître. Moi, je lis les sondages d'opinion, et ce qui est assez remarquable, c'est de voir que même si l'on trouve, si l'on découvre un vaccin, il n'y a que 20% par exemple des Autrichiens, 49% des Américains et un tout petit pourcentage des Allemands déclarent que si un vaccin est découvert, ils se feront vacciner. Donc, paradoxalement, on vit dans un monde où, quand bien même on aurait la capacité médicale à faire face à une telle crise, eh bien, le niveau de défiance, de méfiance même vis-à-vis de la science, de la médecine, a créé une situation telle que maintenant, ce genre de situation post-Covid va se maintenir, même en présence d'un vaccin. Et donc, pour revenir au monde d'hier, alors même qu'on sort de la crise, revenir au monde d'hier sera bien difficile, voire, à mon sens, très irréaliste. Et de ce point de vue, l'échelle de cette crise économique va quand même déterminer notre perception du monde et de son changement.
Et vous l'écrivez, Ivan Krastev, la pandémie de Covid-19 est un événement du type signe gris. On imagine la référence ou le clin d'œil à l'auteur de l'essai Le Signe Noir, Nassim Nicholas Taleb. Vous le dites, il est très difficile, même pour un observateur attentif de nos sociétés, de notre monde, d'imaginer ou en tout cas d'assurer ce qui va pouvoir se passer après. On ne peut jusqu'ici que spéculer. Mais vous mettez quand même en avant, et on les a déjà évoqués ensemble, un certain nombre de paradoxes. À un moment, il va falloir essayer de les dépasser, ces paradoxes. Alors, si j'en reviens à l'Union européenne, quelle sera l'attitude que les Européens vont adopter, d'après vous, dans les prochains mois, en réaction à cette épidémie? Est-ce qu'on va s'enfoncer dans une crise peut-être plus grave encore que celle que l'Europe a connue précédemment, où l'Union européenne va-t-elle envisager des vraies mesures d'ouverture, d'interdépendance pour se solidifier?
Eh bien, vous parlez de paradoxe. L'un des paradoxes intéressants, si on imaginait, si on avait imaginé il y a un an quelle crise pouvait, disons, permettre de solidariser l'humanité et rendre une mondialisation plus stable et plus efficace, ben, le genre de crise qui devrait réunir, rassembler les forces, ce serait une épidémie puisqu'il n'y aurait pas de conflit entre les pays, contrairement au changement climatique, il y a urgence immédiate, contrairement au changement climatique, il y a plus longue échelle, à telle enseigne qu'on ne peut pas faire l'impasse sur la situation. Il y a des pays qui réagissent beaucoup plus lentement au changement climatique. Donc là, il y a des enseignements qu'on peut tirer. Ici, vous aviez la crise parfaite, en quelque sorte, qui devrait pousser les pays à coopérer davantage. Or, ça n'est pas ce qui s'est produit. Et peut-être qu'un des enseignements que les Européens ont tirés de tout cela, c'est qu'ils sont très seuls, très isolés dans le monde. Et là, il y a deux types de phénomènes. D'un côté, comme on l'a dit précédemment, les Européens n'ont pas été très favorablement impressionnés par les gestes ou les initiatives prises par les institutions européennes, en tout cas sur le plan sanitaire. Mais vous avez des gens qui ne se sont pas particulièrement intéressés à l'Union européenne, qui était plutôt nationaliste, mais ils se sont rendus compte que la seule façon pour un État-nation européen de garder sa pertinence et d'éviter la fragmentation, c'est de renforcer justement l'Union européenne. Donc, je ne crois pas que nous soyons dans un moment newtonien, une espèce de d'un moment où on va créer du jour au lendemain une Union fédéraliste en Europe. Je ne crois pas que ce soit le cas. Par contre, la plupart des Européens se sont rendus compte que si l'Union européenne n'arrive pas à se serrer les coudes, si nous ne pouvons pas donner à la Commission européenne le droit, par exemple, d'imposer des taxes carbone ou des taxes numériques, alors les États-nations vont être complètement perdus dans un monde qui sera beaucoup trop hostile, beaucoup trop grand pour eux. Et paradoxalement, l'Union européenne aujourd'hui va être renforcée parce qu'il y a une peur de la mondialisation plutôt qu'une peur des effets de la mondialisation.
C'est une expérience sociale, cette épidémie, vous l'écrivez, Ivan Krastev. C'est aussi un défi politique, et notamment pour les dirigeants européens qui vont devoir faire ce choix stratégique, à la fois tenter de préserver un univers mondialisé dans lequel l'Europe a évolué jusqu'ici, fait de frontières ouvertes, tout en travaillant à une version modérée de démondialisation. Il est probable, dites-vous, écrivez-vous, Ivan Krastev, qui vont jouer un peu sur les deux tableaux, sur les deux fronts à l'avenir. Un livre vient de paraître, il s'appelle « En immersion, au seuil ». Il est signé de deux sondeurs français de l'IFOP, Jérôme Fourquet et Marie Gariazzo. Ce livre rend compte un peu des réactions et des humeurs, des questionnements aussi des Français pendant le confinement. Et il atteste d'un niveau de défiance jamais atteint et typique peut-être d'un certain mal-être français envers le gouvernement, plus que dans d'autres pays qui ont eu des réactions pourtant plus hésitantes face à la crise, comme la Grande-Bretagne ou l'Italie. Est-ce que vous pensez que cette épidémie va ouvrir à une réconciliation des Européens avec leurs États, avec leurs gouvernements, dans l'attente qu'ils en ont?
Écoutez, franchement, l'un des effets de cette crise, c'est que après le premier stade de la crise, vous avez eu des réactions différentes d'un pays européen à l'autre vis-à-vis des États. En Allemagne ou dans certains pays scandinaves, les citoyens ont une grande confiance, alors qu'en Italie, en Espagne, les citoyens étaient plutôt déçus. Et en France, et là ça rejoint ce que j'ai lu moi-même, la France aurait plutôt tendance à être dans le deuxième groupe. Donc je ne pense pas qu'il y aura un nouveau moment d'unité nationale à la suite de la crise, mais pour autant, je ne crois pas qu'après la crise, les gens soient à ce point déçus de leur gouvernement et de l'Union européenne qu'ils jettent l'éponge, parce que une certaine consolidation de l'Union européenne est essentielle, parce que sinon il n'y a pas d'issue. Imaginez que l'Europe s'enferme dans le protectionnisme et que soit prise en étau entre la Chine et les États-Unis qui se disputent la domination de la planète. Eh bien, dans une telle situation, pour que l'Europe puisse survivre, il faut qu'il y ait un minimum de consolidation, au moins sur le plan économique et politique. Alors, dans la mesure où il y aura consolidation, ça ne veut pas dire qu'il y aura réconciliation. Je dis bien consolidation, c'est-à-dire qu'on se rend compte de sa vulnérabilité, de sa faiblesse, et donc il faut quand même se serrer les rangs. Et donc, c'est vrai, quand on constate sa propre faiblesse, on peut faire les justes choix. Et là, je ne crois pas qu'on va se retrouver dans une situation où, après la crise, on fasse, disons, plus confiance ou aveuglément confiance au pouvoir européen ou national, mais c'est la seule option de survie.
Vous avez développé, et on terminera là-dessus, Ivan Krastev, cette idée d'une Europe monastère, l'exceptionnalité plutôt que l'universalité de nos valeurs. Par où commencer cette transformation?
Écoutez, il fut un temps où l'Europe se pensait être le modèle du monde à venir. Après quelques dizaines d'années, on s'est rendu compte que le modèle européen s'appuie sur des politiques post-nationales où il y a une forme d'interdépendance qui assure une certaine sécurité. Bon, aujourd'hui, ce modèle a un petit peu souffert, mais les Européens sont certainement insatisfaits de leur gouvernement, mais pour autant, je ne pense pas que les Européens soient attirés, par exemple, par le modèle chinois. Les Européens restent attachés à leur mode de vie, alors peut-être pas pour les mêmes raisons, mais toujours est-il que aujourd'hui, parce qu'on reste attaché à un mode de vie européen, je pense que c'est ce qui va définir la suite de l'Europe. Ce monastère, c'est une Europe qui vit dans un monde plus grand, mais dans lequel l'Europe a tracé sa propre voie et elle est prête à se défendre et à défendre sa différence. Et là, je crois que c'est là que le changement commence. C'est une transition qui va vers de l'universalisme européen vers l'exception européenne.
Est-ce déjà demain le monde paradoxal de l'après-Covid-19 aux éditions Premier Parallèle? Merci beaucoup Ivan Krastev d'avoir été avec nous. Merci. Et un immense merci à Robert Wolfenstein qui a dribblé avec cette traduction à distance. À la réalisation aujourd'hui, c'était Anna Holweck, Alex Dang à la technique, Bruno Barada, Auriane Delacroix et Henri Leblanc à la programmation et Laura Dutèche-Pérez à la préparation.